quotidien de la mer, Ariel Cassim.
Professeur Lucien Laubier, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut océanographique et que vous êtes professeur émérite à l'Université de la Méditerranée. Nous venons aujourd'hui de Marseille et vous travaillez souvent dans un endroit qui est assez prestigieux puisqu'il s'agit d'un des grands centres océanologiques, celui de Marseille qui s'appelle le centre de l'Oume, c'est ça ?
La station marine d'Andoume, qui est située sur la pointe d'Andoume, connue à travers une équipe de football à une époque, par exemple.
Alors, c'est un centre qui est menacé aujourd'hui, qui a un avenir menacé. Il est question de le fermer.
Eh bien, oui, en effet, les autorités universitaires semblent avoir décidé d'en faire autre chose. Et je dois dire que pour des gens comme moi, qui ont une grande partie de leur vie professionnelle travaillé dans des stations marines, c'est tout à fait incompréhensible. Il est question de réinstaller les gens qui sont actuellement sur cette station au bord de l'eau, avec l'accès direct, quotidien à la mer, la possibilité de voir tout ce qui se passe, y compris un banc de sardinelles inattendu qui passe devant nous et que l'on peut immédiatement suivre. Il est question de les installer en pleine terre, à 4 ou 5 kilomètres de là, sur un très beau campus, qui est le campus de Lumini. Pour moi, ça n'a pas grand sens.
Oui, car il faut rester au bord de la mer lorsqu'on travaille sur ce domaine qui est si menacé, si important aujourd'hui, qu'on lui consacre beaucoup de grandes conférences, beaucoup de grandes rencontres. Et si vous êtes là, c'est aussi pour nous parler de ces entretiens sciences et éthiques qui vont se tenir à Brest les 13 et 14 du mois d'octobre. Alors, vous êtes à la troisième présidence de ces entretiens qui, chaque année, ont un thème différent. Très rapidement, pour les citer, il y a eu le thème qui était tourné vers l'exploitation des ressources vivantes, la pêche, tout simplement.
Et orienté vers les problèmes que nous rencontrons actuellement en matière de surexploitation, d'exploitation excessive.
Oui, qui continue, hélas.
Et qui continue. Nous avons vu récemment un épisode sur le thon rouge méditerranéen qui ne fait pas honneur à nos professionnels.
Ouais, mais il faut bien qu'ils vivent, c'est difficile de concilier les deux sujets.
C'est une question très délicate en ce sens que les modèles scientifiques existent, les résultats des scientifiques sont là, sont connus, sont généralement d'ailleurs adoptés, à peine modifiés par les politiques, mais ensuite c'est le contrôle qui laisse à désirer et qui malheureusement va toujours dans le même sens, d'autant plus vite et d'autant plus loin que les ressources en question ont une haute valeur économique.
Bien sûr.
On ne peut en dire plus.
Et voilà. Alors, troisième thème, ça a été le deuxième thème, pardon, aménagement du littoral. Et puis cette année, vous vous penchez sur la biodiversité du littoral. Alors, la biodiversité, un mot fort important qui fait partie de notre langage et de nos espèces. Alors, la biodiversité, quelle est-elle ? Peut-on la présenter aujourd'hui ?
Oh oui, bien sûr. Alors d'abord, biodiversité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement la variabilité ou la diversité du vivant. À quel niveau voulez-vous regarder le vivant ? Si vous regardez, vous et moi, des espèces, Homo sapiens, eh bien vous allez étudier une biodiversité spécifique que vous pouvez exprimer par un nombre d'espèces. Vous pouvez également, à l'intérieur d'une même espèce, regarder une diversité qui, elle, est basée sur la génétique. On va distinguer différentes populations, par exemple les races que l'on élève de bovins, qui constituent effectivement des variables à l'intérieur d'une même espèce qui est la vache. Et puis on peut regarder de l'autre côté des niveaux d'organisation plus élevés que celui de l'espèce, c'est-à-dire celui de l'écosystème, pour employer un mot un petit peu compliqué, où là c'est l'ensemble des espèces associées à un habitat déterminé qui constitue l'unité d'étude. Alors d'où vient la biodiversité ? Eh bien, elle a pris d'une certaine manière ses lettres de noblesse dans la mesure où il s'agit du contact avec nos sociétés humaines, avec ce fameux livre de Rachel Carson publié au tout début des années 60, Le printemps silencieux. Alors pourquoi ce titre ? Eh bien parce qu'elle avait, à ce moment-là, fortement pris conscience des méfaits du DDT sur les populations d'oiseaux. Et ces oiseaux étant morts, évidemment, le printemps, au lieu d'être riche de gazouillis d'oiseaux en train de se rencontrer, de commencer leur vie active d'été, eh bien, était devenu silencieux. Oui. C'est la première fois qu'on voit ces mots-là et ces idées-là apparaître. Oui. Mais elles ont acquis droit de cité à travers un sommet des Nations Unies sur l'environnement qui s'est tenu à Rio de Janeiro en 1992, où une convention sur la biodiversité a été adoptée, puis signée, ratifiée par les différents États.
Alors, c'est la biodiversité marine et celle du littoral, c'est sur laquelle vous allez le plus travailler pendant ces rencontres.
Oui, alors on a choisi le littoral, bon, d'abord parce qu'en Bretagne, ne pas mettre l'accent sur le littoral, c'est difficile compte tenu de la structure de la péninsule bretonne. Ensuite, parce que le littoral est extrêmement intéressant par la très grande diversité des habitats qu'il rencontre. Il y a la partie sous l'eau, bien sûr, il y a la partie totalement émergée en permanence, les dunes, les falaises, et puis il y a la partie où l'eau monte, va et vient en fonction du rythme des marées, qu'on appelle l'estran. Tout ceci vous donne une gamme de facteurs écologiques extrêmement divers qui permet le développement d'une biodiversité vraiment exceptionnellement élevé.
Ouais, mais une biodiversité qui est aussi menacée par justement eh bien l'envahissement de l'être humain qui aujourd'hui a envie de vivre sur les côtes de plus en plus.
Alors bien sûr, c'est le dernier facteur dont j'aurais dû parler, le fait que dès maintenant nous avons une tendance marquée à nous installer à 10 à 15 kilomètres de la mer, c'est en tout cas ce que nous souhaitons tous, et nous avons une bataille qui se joue en permanence entre les protecteurs et les conservateurs de la nature et ceux qui veulent aménager le littoral, bien sûr.
Mais est-ce que l'impact de la présence humaine est fort contrariante pour la biodiversité ?
Bien écoutez, globalement, on donne évidemment des chiffres. Qu'est-ce qu'ils valent ? C'est difficile à dire. On dit que depuis que la société humaine a pris une certaine dimension, c'est peut-être 1 à 1,5% des espèces existantes qui auraient disparu dans les zones où l'homme s'est développé. Je ne parle pas de la forêt amazonienne, bien sûr, mais de zones plus régulièrement et plus densément peuplées.
Ça nous donnerait quel chiffre, ça, à peu près ? 17 000 ?
Eh bien, on connaît actuellement 1 700 000 espèces, à peu près. Donc, 1%, ça ferait effectivement 17 000 espèces.
Disparu définitivement,
oui. Il y a assez peu de chances. Bon, dans certains cas, on peut les voir réapparaître dans des zones que l'on ne connaissait pas et où elles vont plus se réfugier. Mais dans d'autres cas, non, c'est une disparition définitive.
Oui. Alors, vous dites justement qu'on ne connaît aujourd'hui qu'une petite partie de cette biodiversité. Elle peut se projeter sur combien d'espèces éventuelles dans des études
Alors, ça c'est le paradoxe. On manie aujourd'hui un concept avec vraisemblablement à peine 10% de son contenu réel.
C'est ça.
En termes d'espèces, si vous voulez, on fait des spéculations en comparant le nombre d'espèces connues par rapport au nombre d'espèces nouvelles dans une grande surface de forêt, par exemple, ou une grande surface de fond abyssal, et puis on extrapole ça à la surface totale des forêts terrestres ou à la surface totale des fonds abyssaux terrestres. Eh bien, on aboutit avec ce type de spéculation à des chiffres qui oscillent, selon les scientifiques qui ont travaillé, entre une dizaine de millions et peut-être 20 ou 25 millions d'espèces. Mm-hmm. Donc nous sommes très très loin d'avoir un inventaire complet. Ceci, bien entendu, est à moduler, je vous dis ça en moyenne sur l'ensemble du globe. Il est évident que des zones comme la Méditerranée ou comme la Manche sont infiniment mieux connues quand même que l'océan Antarctique, par exemple.
Donc encore beaucoup d'espèces à découvrir, beaucoup de scientifiques qui travaillent d'ailleurs. Bon, découvrir est une chose, mais comment préserver celles que nous connaissons déjà ? Quels sont ces grands axes ? Comment les faire ?
Alors, sur ce plan-là, sur le plan de maintenir, conserver, préserver, il y a deux positions, là aussi, qui sont non pas antagonistes, mais complémentaires plutôt. Il y en a une qui consiste effectivement à créer des outils de protection habituels que peuvent être des réserves intégrales, réserves non intégrales, autorisant certaines pratiques, les aires marines protégées, qui se développent actuellement beaucoup dans le milieu marin, les parcs naturels, les législations, les réglementations varient, mais enfin, il y a ce système qui, au fond, revient à limiter la fréquentation humaine, voire à l'interdire totalement, et toutes les pratiques qu'elle pourrait entraîner, au profit donc d'une protection complète. Et puis, le second point de vue, c'est que quand même, nous sommes installés sur le littoral, et nous souhaitons y rester, il n'y a pas de doute, donc là, comme ailleurs, il faut négocier, il faut combiner notre désir de vivre auprès de la nature et le besoin de maintenir cette nature dans l'état où elle est, parce que ce que nous voulons, c'est effectivement la nature, c'est bien cela que nous recherchons. Il faut donc aussi apprendre à vivre avec, et c'est là qu'intervient une idée qui fait son chemin à l'heure actuelle. Bon, on lui donne un nom un peu pompeux, on parle de gouvernance, c'est-à-dire laisser le soin, au moins en partie, aux citoyens à la base, de comprendre ce qu'il faut faire pour maintenir ce qu'il souhaite voir autour de lui. Mmh. Et c'est une tâche qui est à la fois d'éducation, qui est certainement sur le long terme, et qui est celle qu'il faut aborder. Alors, l'intérêt des entretiens à Sciences et Éthiques de Brest, c'est que justement, nous avons avec nous un public, beaucoup de jeunes, des jeunes lycéens, compris entre 12 ans et 15-16 ans, et c'est sans doute là que nous pouvons le mieux semer les graines qui feront un jour changer les mentalités sur les populations littorales notamment, puisque c'est le sujet qui nous intéresse.
Et vous avez aussi un jeune prince qui va être interviewé à ce sujet, n'est-ce pas, puisque Sa Majesté...
Oui, Son Altesse Sérénissime Albert II a accepté de recevoir un groupe de jeunes. Je ne pourrais pas vous le dire s'il l'avait dit, mais de toute façon, il n'a pas encore réalisé cet enregistrement, mais il a bien voulu accepter de nous donner ses idées sur la protection de l'environnement et je pense sur la fondation qu'il vient de créer.
Merci beaucoup professeur Lucien Loubier. Donc, rencontre de ces entretiens à Brest les 13 et 14 octobre pour tout le monde. Bon vent à tous, à demain sur RFI.